Les nuits de France Culture.
Depuis des lustres, on le sait, l'Égypte ancienne fascine. Le souvenir de cette civilisation attire des savants, des artistes, des lettrés, mais aussi des amateurs de théories fantaisistes dans lesquelles se mélangent ésotérisme, superstition, vieilles croyances et un soupçon de merveilleux. L'émission que vous allez entendre dans un instant offre un bon exemple de ces divagations, en donnant la parole entre autres à Paco Rabanne. Le célèbre couturier disparu en février 2023, bien connu pour ses élucubrations apocalyptiques, évoque ici ses vies antérieures à l'époque de la grandeur de l'Égypte ancienne et même un dialogue qu'il aurait eu avec le Sphinx un soir de pleine lune. Plusieurs autres allumés de l'Égypte ancienne dans cette émission de Francesca Piolo, l'égyptologue Guillemette Andreux, l'artiste Anna Boguiguian, entre autres. Des allumés, entre guillemets, réunis dans cette émission à l'occasion justement du Festival des allumés de Nantes en octobre 1994. Voici donc Pharaon, Pharaon d'hier et d'aujourd'hui dans Nuit magnétique, première diffusion de cette émission sur France Culture le 19 octobre 1994.
Nuit magnétique, Pharaon, Pharaon, d'hier et d'aujourd'hui.
Seul le désordre est stable. L'état naturel du monde, c'est le désordre. Et pour que l'ordre règne, il faut que les dieux, le pharaon, les gouvernants et les hommes se mettent à pousser ensemble dans le même sens, sinon le monde va s'écrouler, le soleil se lèvera pas le lendemain, la crue du Nil ne reviendra pas. Ils vivent dans l'idée que le monde est menacé en permanence par le retour du chaos initial.
Shemisu, Sana, Chedef. Yukemaeni, Bai, Heai, Heredet, Heref, Heruteni. J'ai créé mon bas autour de moi, afin de faire en sorte qu'il apprît ce que je sais.
Déterminative nom d'homme. Pa, ko, ra. Ba, l'âme. Ne, la vibration. Or, chose étrange, pa, c'est le panier qui veut dire textile, le tissu, et l'aiguille à coudre. Et je suis couturier. Mm-hmm. Alors, voici la traduction. Ko, c'est la stabilité de carré, hein, et l'esprit qui anime la matière. Ce qui veut dire en égyptien, Paco Rabanne veut dire en égyptien, je suis aujourd'hui, car de toute éternité, je suis la vibration qui anime l'âme solaire.
Allumer des soirs de fête sur les terrasses du Caire. Allumer des hiéroglyphes qui s'usent les yeux à déchiffrer le conte du paysan au Moyen Empire que d'autres allumés décryptent à leur tour sur l'écran de Shahadi Abdelsalam à la Bourse du Travail nantaise. Allumer de la vie quotidienne au temps des pharaons, comme Guillemette Andreux, occupé à traquer les secrets de jouvence de Néfertiti. Allumer des pharaons comme Paco Rabanne, qui converse avec le Sphinx les soirs de pleine lune. Allumer des pyramides comme Anna Boguiguian, qui à travers les dédales du blocos nantais mène chacun peut-être à sa pyramide intérieure. Allumer, 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 tant d'allumer, que Garagos, sans doute, le mauvais œil du guignol Kérot s'en est ému, et que tout a commencé chaque soir, pour nous, dans l'hôtel nantais, par une énorme panne de courant. Allez, adieu, son, bande, ciseaux, seul le désordre est stable, disiez-vous ? Est-ce que vous êtes allé Paco Rabanne en Égypte et dans les pyramides ?
Dans mon atelier, atelier Auguste Perret, je suis rentré en même temps qu'un garçon qui s'appelait Olivier Robichon. Son père, Clément Robichon, est l'égyptologue qui est resté 60 ans à Louxor. Donc je les ai rencontrés, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé d'égyptologie. J'aurais dit ma sensation depuis l'âge de 7 ans, lorsque m'a été révélée ma vie de grand prêtre initiateur, lorsque Amenophis III m'avait demandé d'élever son premier fils, Toutmatès, un nom comme ça, qui a été tué par son char. Et donc c'est le second fils que j'ai élevé dans la connaissance des secrets égyptiens, c'est-à-dire Amenophis IV, qui allait plus tard devenir Akhenaton. Et en même temps, il y avait un jeune prince de la cour qu'on appelait Ossissé, qui plus tard allait être appelé par Akhenaton, sauvé des eaux, Moïse. Et je me souviens très bien de cette vie en Égypte, il y a 3000 ans, lorsque j'ai suivi Akhenaton à Tel Amarna, et quand la reine Néfertiti l'a trahi avec Hohenreb, le général, et que les prêtres d'Amon, furieux d'avoir été évincés par Akhenaton, ont réussi à éliminer Akhenaton, qui s'est perdu dans le désert. Et ils ont élu à sa place le jeune frère Toutankhaton, qui est devenu Toutankhamon. Comme j'étais le plus vieux prêtre de Thèbes, et que j'avais caché les portes d'Orichal, que le secret le plus étonnant qu'il y avait dans le Naos à Thèbes, que j'avais amené à Tel Amarna, les prêtres d'Amon n'ont pas osé me tuer parce qu'ils voulaient récupérer ces reliques extraordinaires qui datent des temps des Atlantes. Et je suis revenu, j'ai fait allégeance hypocritement aux gens d'Amon, le bélier. Je suis revenu à Thèbes, et avec 12 prêtres restés fidèles à Akhenaton, j'ai assassiné, empoisonné Toutankhamon.
Comment est-ce qu'on peut vivre avec un tel poids d'années, de karma, comme ça, dans une vie quotidienne ? C'est pratiquement impossible.
Si, c'est pour ça que peut-être que je suis né dans une période très difficile, c'est-à-dire enfant la guerre d'Espagne, en France les camps de concentration, la fuite devant les Allemands, caché de la Gestapo qui recherchait ma mère, etc. Donc peut-être toute cette espèce de poids de pression politico-journalière a fait que je me suis éveillé très tôt et que j'avais cet esprit très particulier de sauvegarde, d'équilibre. Car malgré tout cela, je suis resté un garçon très, très équilibré, marchant pas à pas dans la matière, essayant d'analyser les choses et profondément croyant, mais pas jobard, pas du tout jobard, essayant d'analyser chaque chose tous les jours, regardant les formes, les couleurs, les choses. Non, c'est possible, je crois, ce cheminement est possible à faire tous les jours, surtout si vous avez une immense humilité et que vous ne prenez pas ni pour un saint, ni pour un prophète, ni pour un gourou.
Est-ce que vous voyez vous vivant comme ça au temps des pyramides ?
Oui, très bien. Très souvent, j'en rêve, pour ne rien vous cacher.
أيها الحاكم على كل من فني ومن لم يفني إذا ذهبت إلى بحر العدل فإن الهواء لن يمزق قلعك ولن يتباطأ أقاربك ولن تكسر لك مرسى ولن يحملك الطيار بعيدا ولن ترى وجها مرتاعا
Ô gouverneur, tu es le père de l'orphelin, le guide de celui qui se perd, épargne-moi car je suis égaré.
دعني أرفع اسمك في هذه الأرض فوق كل قانون عالي أيها الحاكم المنزه عن الكشع الخالي من الخوف
Je fais des transferts personnels, peut-être assez curieux, mais j'imagine très bien que la vie n'était pas pire et que il fallait, comme aujourd'hui, surveiller ses enfants, les envoyer à l'école, avoir de quoi les faire manger.
Mais vous êtes scribe alors dans cette vie-là.
C'est compliqué, oui. Moi, il faut que je trouve ma place. Non, là, dans ces cas-là, j'oublie que je sais lire et écrire. Je deviens vraiment quelqu'un relativement simple. Et c'est vrai que souvent, je pense au destin de femme, puisque je suis une dame aussi. Et je me sens très proche. Je veux dire, je les sens très, très sœurs, hein, très, très proches de moi, ces dames. Bon, peut-être pas autant des pyramides, mais on va franchir un millénaire. Je me suis beaucoup intéressée, il y a quelques années, à un village qui est le village de Deir el-Médina, que vous avez peut-être visité en Égypte, qui est un village qui abrite toutes les familles des artisans qui ont travaillé au creusement et à la décoration des tombes de la Vallée des Rois. Donc c'est un village clos où ont vécu environ 120 familles, entre 1300 et 1100 avant Jésus-Christ, grosso modo. Donc là, on franchit quelques siècles. Et ce sont des familles que l'on connaît très bien, dont on connaît les générations, les noms des enfants, les activités, les disputes entre voisins, les litiges, les transports par les ânes. Tout ça, on a vraiment un tableau extrêmement vivant de la vie quotidienne de ces familles. Et je dois dire que moi, je me sens, j'aurais bien aimé en être. Hein. C'est vrai. Et ça a l'air idiot, mais quand j'ai... J'évoque des souvenirs extrêmement personnels, mais par exemple, quand on a des enfants, il est évident que là, on se trouve aussi démunis par rapport à un accouchement, une maternité, qu'une femme d'il y a 5000 ans. Je veux dire, si on ne fait pas appel à des secours sophistiqués de la médecine, et dans ces cas-là, moi, j'ai vraiment pensé à ces dames, et je me suis dit, au fond, je suis comme elles.
Elle appartiendra à mes enfants, mise au monde pour moi par Nebet Nenesu. Tchoutirit ref hinsenef setche. Le mal qui a été fait contre lui par son frère.
Yui Geret, Rerku.
Comment vous voyez le début de la phrase?
On le voit par un certain. On suit le texte par continuité.
Oui.
Et puis il y a un certain nombre d'indices. Mm-hmm. Vous avez ce groupe de signes là qui est un signe Yu, hein, qui est l'indicateur que nous sommes en début de phrase. Alors quelquefois un début de phrase, mais si vous voulez, pour la plupart du temps, c'est un petit peu si vous écrivez le français sans ponctuation. Si vous allez, je crois que c'est à la place de la Concorde, qui a la Déclaration des droits de l'homme écrite sur les murs sans aucun signe de ponctuation. Quand on connaît les mots, on arrive assez facilement à reconstituer le début et la fin des phrases. Donc, Yui Geret Rerku Neb En Sepat, merci, Ten, ce qui veut dire « je connais le maître de ce domaine ». Nessi, mère-père, Ur, Sameru, Rensi, il appartient au grand intendant, fils de Meru, Rensi. Ensuite, Netef, Geret, Resef, Awaneb, ou Awa, il y a deux versions ici qui sont un peu différentes. C'est lui qui repousse ou qui punit le voleur, Ireru emto ergeref. Ireru, alors littéralement, ça veut dire qui agit. Comme il s'agit d'un voleur, on traduirait plutôt qui sévit dans ce pays, dans le pays entier.
Le scribe, quel est son rôle dans cette société pharaonique ?
Oh, le scribe a un rôle majeur. D'abord, il est le détenteur de l'écrit. Et il est évident que toute personne sachant écrire est quelqu'un qui a le pouvoir. Donc c'est vraiment un homme extrêmement important. D'autant plus que les Égyptiens ont inventé une écriture et qu'ils ont beaucoup écrit. C'est-à-dire que les Grecs, par exemple la civilisation grecque que vous pouvez admirer à Athènes ou au musée du Louvre, est quand même attestée par des vestiges archéologiques qui sont très souvent totalement anépigraphes. Les Grecs qui sont arrivés au 5e siècle, au 6e siècle, la Grande Grèce, Athènes, ça n'est pas inscrit du tout. Or, nos monuments égyptiens, qui ont des millénaires de plus, sont toujours écrits. Donc il est évident qu'un scribe qui avait la capacité de lire et d'écrire ce qui était inscrit sur les temples, et surtout de véhiculer les ordres administratifs et les ordres émanant de la résidence royale, était un personnage clé et charnière de la société égyptienne. Le rêve de tout égyptien, c'était évidemment de faire de son fils un scribe. Ça lui permettait d'échapper aux travaux des champs, aux impôts, parce que le scribe avait un statut fiscal extrêmement avantageux. Et surtout, ça en faisait quelqu'un de considéré dans son village. Je veux dire, être le père d'un scribe, c'était, je ne sais pas, être le père d'un haut fonctionnaire de nos jours.
Et tout est... Attends, Michel, tout est bien allumé dans la bureau ?
Bien.
C'est ok, c'est bon ? Sauf le son ?
Attention à votre tête, hein. Parce qu'il y a des endroits plus hauts que des autres en bois, toi. Bien, on rentre. C'est par raison de sécurité que les choses ont été faites comme ça. Ce n'est pas exactement le labyrinthe que je voulais faire, bien sûr, parce qu'il y a des certains diagrammes ou des dessins, vous savez qu'on connaît des labyrinthes qui n'est pas en accord avec ce labyrinthe. Alors c'est plutôt un marche ou un promenade qui peut nous amener en nous-mêmes. Et quand tous les labyrinthes, il y a un petit secret, mais je ne le dirai pas. Alors ça... C'est les anciens, la nouvelle drapeau d'Égypte. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, hein.
Si, si.
Ça, c'est le drapeau d'Égypte, mais je n'ai pas mis l'aigle dessus, vous comprenez? Et ça, c'est un aigle comme l'oiseau d'Égypte, mais il n'est pas exactement l'aigle qui est utilisé sur le drapeau. Alors, ça, c'est l'arbre de l'Égypte pour expliquer l'histoire qui a déroulé en Égypte pendant les siècles. Alors ça, c'est l'arbre d'Égypte, le drapeau de royaume d'Égypte, le drapeau vert du roi. Ça, c'est la nouvelle drapeau d'Égypte. Et aussi, c'est noir et blanc et rouge qui est aussi des couleurs mystiques. Alors, on arrive là. Il faut mettre les photos. Alors ça, c'est on vient là et c'est l'Égypte moderne. Vous comprenez, c'est la continuité des choses. Avec les symbolismes de lieu et la ville du Caire.
Alors l'Égypte moderne, il y a... Le crocodile mangeur de voitures.
Oui. Et ça montre aussi le symbolisme que le crocodile avait dans l'ancienne Égypte, dans la mythologie d'Égypte. Alors ça représente l'eau qui est absente et l'animal qui est en ce moment on ne le trouve plus en Égypte, mais ça démontre un certain symbolisme et mouvement d'Égypte.
L'œil. Comment on passe de l'Égypte ancienne à l'Égypte aujourd'hui ? Comment se
fait-il ? Quel ancien ? Ah, parce que ça, je ne mets pas ce n'est pas une catégorisation d'histoire. Hein.
Non.
C'est simplement, je vous ai dit, l'Égypte. Parce que le temps, si vous voyez, est cristallisé ici. Il n'y a pas une conception de temps. Vous sentez ça. Que le temps est arrêté. Et je l'ai fait ça par l'utilisation de techniques de la cire. Les choses qui ont été prises, qu'on a recyclées, les choses recyclables, oui. Et la manière que les photos sont mises là, ça montre le temps. Mais à part ça, tout est arrêté. Et même les photos sont des moments frigorifiés d'Égypte.
Et pourquoi est-ce qu'on arrête le temps? Pourquoi est-ce que le temps est devenu immobile?
Dans cette labyrinthe?
Oui, pourquoi le temps est devenu immobile?
Parce que c'était une nécessité.
C'est délicieux, les boulettes, hein?
Mais j'ai acheté exprès pour vous faire goûter, c'est pas
grave. Mangez les boulettes, vous voulez pas manger les boulettes?
Non.
De cette réincarnation, vous avez des preuves empiriques, des preuves tangibles?
Non, je pense que ça, il y a plusieurs chemins. Je me souviens par exemple, la première fois, prenons un exemple. Ouais. Lorsque la France est rabibochée après la guerre des six jours avec l'Égypte, ils ont demandé pour sceller la réconciliation. La France envoie un couturier parisien faire un défilé de mode en Égypte. Mais comme il y avait eu la guerre, ils ne voulaient pas un couturier français trop français. Donc le Quai d'Orsay a trouvé un couturier français, un petit peu espagnol sur les bords, c'était Paco Rabanne. Donc je suis arrivé là-bas en Égypte et très impressionné parce que c'était mon premier voyage en Égypte. J'avais fait des modèles en métal très égyptiens, avec la coiffe égyptienne, avec les couleurs, tout ça. Ouais. Le défilé s'est passé devant le Sphinx. Il y a eu des interférences du temps invraisemblables. Il s'est passé par moments des phénomènes étranges. Je voyais des gens, il y a eu des ondes qui passaient et des décollages de temps invraisemblables. Après le défilé, je remontais, pendant qu'on emballait les vêtements, je remontais le long du Sphinx sur le côté gauche, en direction de Gizeh, c'est-à-dire de Khéops. Ouais. Il y a un petit raidillon là sur le côté du Sphinx. C'était minuit, la pleine lune, et brusquement, j'entends un appel, je me retourne, et sur le fond du ciel éclairé par la lune, je vois la masse noire du Sphinx, et sur le Sphinx, la masse, l'image holographique telle que le Sphinx était il y a 3000 ans, c'est-à-dire lumineux, c'est-à-dire une image holographique en couleur et lumineuse, avec le visage.
Comme les auras.
Voilà. C'est-à-dire le visage peint en rouge, la coiffe blanche et bleue, et tout le corps peint en rouge. Le sphinx holographique tourne sa tête vers moi. C'était une époque, j'avais 30 ans, où je m'intéressais beaucoup à l'alchimie. Le sphinx se tourne vers moi et m'explique pourquoi il a été créé. Et me parle de l'alchimie. Comment l'homme, animal, les quatre pieds du sphinx, peut devenir un humain de la face humaine, et par l'œuvre du soleil et l'œuvre alchimique, atteindre la divinité, c'est pour ça qu'il regardait le soleil levant. Il m'explique tout. Et à un moment, il me dit, regarde, il soulève sa patte droite, et je vois un escalier, il me dit, descends. Je descends par la pensée, bien sûr. Hein. J'étais là, foudroyé, ne bougeant pas. Par la pensée, je suis cet escalier qui descend sous la patte. Et il me dit, voilà, ce couloir menait à Khéops, car Khéops était entièrement fermé. Et les néophytes, pour recevoir l'initiation ultime, descendaient par cette patte, arrivaient à Khéops et recevaient la mort initiatique des trois jours, etc., dans l'intérieur de Khéops. Et il dit, mais poursuis plus avant. Je poursuis par un autre couloir et j'arrive dans une immense salle, creusée très, très profonde, où il y avait tous les instruments des anciens Atlantes, machines volantes, machines à passer le temps, etc., des choses invraisemblables. J'étais foudroyé comme ça, et puis il me dit, parce que moi je reviens à la surface avec lui, et il me dit, tout ceci sera découvert lorsqu'on s'attaquera à la réflexion de mon visage. Et l'image disparaît. Je reste là foudroyé. Je le raconte à des amis, je le raconte à des amis architectes, etc. À des amis égyptologues, tout le monde rit. Tout le monde dit, quel farceur, Paco, toujours à raconter ses conneries, etc. Et j'oublie. J'oublie. Sauf qu'il y a 2 ans, rappelez-vous, la moitié du visage du sphinx est tombée parce que le visage est corrodé par le sel. Et on pense, les gens disent que c'est le sel qui remonte du Nil. Je pense que c'était le sel du déluge qui a corrodé le visage. Et j'ai vu l'arrivée l'année dernière dans mon bureau un ami égyptologue qui m'a dit « Paco, tu te souviens ce que tu avais dit il y a 30 ans ?» Je lui ai dit « Quoi ?» Il me dit « Sur le sphinx. » Je lui ai dit « Oui, oui, je me souviens encore. » Il me dit « Regarde. » Il me dit « Regarde sous la patte du sphinx. Nous devenons de découvrir cet escalier qui descend. »
كل عون للإنسان هو منك فأنت كالفيضان الغامر أنت النيل الذي يكسب الحقول خضرة ويخصب الأراضي القاحلة اقضي على السارق احمي التعيس لا تكن كالسيل يجرف من يشكو احذر فإن الحياة الآخرة تدنو واعمل بالمثل الذي يقول
Alors, qui a vraiment le pouvoir? C'est le pharaon ou c'est le vizir?
Oh, vraisemblablement, c'est le pharaon. C'est le pharaon qui bosse toute la journée, une bonne partie de la nuit, et qui se tient tout à fait au courant des affaires de l'État. Il n'y a pas d'exemple de pharaon paresseux, laxiste, peu intéressé. Il est tout à fait conscient de son rôle, très important évidemment. Il se sent le garant de l'ordre cosmique, non seulement de l'ordre de l'Égypte, mais aussi de l'ordre cosmique, parce que les Égyptiens n'avaient pas une conscience très précise des limites géographiques de leur pays, ni évidemment de la planète. Et donc pour eux, le monde s'arrêtait quasiment à la vallée du Nil. Et Pharaon était le garant du maintien de l'ordre cosmique, écologique, géophysique, économique. Tout cela relevait de ses compétences et il était extrêmement près du gouvernement. Ça n'était pas quelqu'un qui restait dans son palais à l'abri des problèmes quotidiens de gestion du pays. Il était très au courant. Le vizir lui rendait d'ailleurs régulièrement compte, il semble même au moins une fois par jour, de la bonne marche du pays.
Donc nous allons commencer aujourd'hui l'étude du conte du paysan qui, dans l'édition du texte de Parkinson, que voici, certains d'entre vous l'ont, j'ai vu. Bien. Alors le conte du paysan, eh bien, ma foi, j'imagine que vous avez tous une vague notion de ce dont il s'agit.
On lit de la droite à gauche, parce qu'on lit toujours dans le sens face au personnage.
De la littérature du Moyen Empire.
Alors ici, ça veut dire... On le lit avec un code S, Poun, ça veut dire S c'est un homme, Pou ça veut dire C, Oun il existait. Il y avait une fois un homme, on traduirait dans un conte. Alors quand c'est souligné ici, c'est-à-dire que c'est en rouge dans le manuscrit, c'est l'ouverture d'une ligne, c'est d'un texte. C'est un homme, alors là c'est son nom, et le petit bonhomme là, ça veut dire que c'est la fin de son nom. Alors il s'appelle Rou N Inepou. Que ça veut dire Rou déjà, je me rappelle.
Protégé,
c'est ça. C'est Inepou qui l'a protégé. Il est protégé par Inepou, c'est Ranubis. Anubis là pour le protège, c'est son nom. Ren, c'est-à-dire le nom. C'est son nom.
Mm-hmm.
سجل كل ما ينطق به بدقة. هكذا يأمر الفرعون.
C'est une histoire extraordinaire. Mais c'est un magnifique texte au point de vue littéraire. Il y a des tas de formules absolument superbes. C'est l'histoire d'un paysan qui va vendre, de voir qui habite Poignatron, il va vendre ses produits à la capitale qui était Racléopolis à l'époque, près au sud du Fayoun. Et il est sur la route, il est arrêté par un monsieur d'un niveau social au-dessus de lui qui essaie de lui voler ses ânes parce qu'il a marché dans son champ et qui lui vole ses ânes, qui le bat et qui lui prend toutes ses affaires. Alors le paysan va se plaindre au plus haut fonctionnaire, enfin le gros fonctionnaire, qui fait une supplique magnifique sur la justice et sur l'iniquité. Et le haut fonctionnaire est tellement emballé par cette supplique qu'il va le raconter au pharaon et ils décident entre eux de ne pas lui donner raison pour qu'il continue à faire des suppliques. Et c'est l'occasion pour eux parce qu'il d'abord d'entendre quelqu'un bien parler, et surtout d'entendre une critique de la société. Alors il y a 9 suppliques magnifiques, dans lesquelles il parle justement de toute la corruption, de toutes les anomalies de la justice en Égypte à cette époque. Et le pharaon, pendant ce temps, nourrit sa famille, et à la fin, alors qu'il croit que plus ça va, plus le ton monte, parce qu'il sent qu'on l'écoute pas et qu'on lui donne pas raison, et à la fin, finalement, le pharaon lui donne la place du méchant, et le méchant prend la place du pays, devient son esclave. Donc tout le monde est récompensé, ça finit bien, mais c'est très intéressant sur le jugement que pouvaient porter les Égyptiens sur le pharaon.
Bon, cette rue, si ça vous intéresse, s'appelle Al-Sahra. On vient de traverser la rue Khan el-Khalili, on peut dire que c'est une rue touristique, mais Al-Sahra, où nous sommes maintenant, est surtout fréquentée par les femmes égyptiennes, parce que si vous remarquez les bijoux qui sont vendus ici, ce ne sont pas les mêmes modèles qu'on a vus chez Khan el-Khalili, par exemple. Là, c'est 21 carats, et ça plaît beaucoup aux égyptiennes, aux femmes égyptiennes.
Et beaucoup surtout, moins à leur mari, quoi.
Ça plaît à leur mari aussi, mais pour parler à propos des finances, c'est le mari qui paye, bien sûr. Je parle à propos des modèles, ça plaise aux Égyptiennes plus qu'aux étrangers.
Je sais pas. Alors, on a le pharaon, le vizir, le scribe comme personnage important.
Oui.
Et la vie quotidienne, comment est-ce qu'elle se déroule? Alors, vous parlez d'un certain nombre de métiers qui reviennent.
Oui.
Bon, il y a des métiers qui sont réservés aux femmes comme tisserandes,
oui. Hein,
puisqu'elles font le tissu.
Excusez-moi. Alors, les métiers sont divers. Il y a les forgerons, il y a les orfèvres, il y a les ébénistes, il y a les céramistes, en tout cas les potiers, disons.
Ils sont considérés comme moins nobles, enfin, comme un métier moins noble, parce que c'est utilitaire.
C'est utilitaire, exactement. Et il y a les métiers de femmes, donc comme le filage et le tissage. Et puis, ce qui est tout à fait intéressant pour nous, c'est que grâce aux peintures et aux reliefs qui sont sculptés sur les tombes, nous avons donc toutes les vocations de cette vie artisanale. On voit par exemple, si vous allez voir le mastaba qui est conservé au Louvre, vous voyez des scènes d'orfèvrerie qui sont extrêmement intéressantes, avec des fabrications, avec des séries de colliers qui attendent le propriétaire et qui montrent bien que il y avait eu une commande de colliers de forme particulière, et tout cela est observable donc dès 2500 avant Jésus-Christ.
Et la vie quotidienne, alors, quel est vous parlez du mariage. Alors, je repose ma question, polygamie ou monogamie?
Polygamie autorisée.
Il n'y a pas de mariage officiel.
Non, il n'y a pas d'acte officiel du mariage. Il y a simplement une institutionnalisation du mariage par la cohabitation des époux sous un même toit et sans doute des agréments passés entre les familles. Mais il n'y a pas d'acte juridique qui marque l'union du couple.
Il y a une concubine installée aussi.
Alors, il y a des concubines, oui. En tout cas, on a des textes qui datent de 2000 avant Jésus-Christ environ, qui montrent bien qu'un riche fermier pouvait avoir sa femme avec sa famille qui allait être l'héritière. Et puis, pas très loin, comme ça, vivant dans la ferme ou dans les petites maisons à côté, une ou plusieurs concubines. Ça, c'est une chose connue. D'ailleurs, il y a un terme égyptien pour la désigner. Et on peut faire la différence entre les légitimes et les concubines. Mais de là, je crois que le vrai comment dire, le harem, c'est une institution royale. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de témoignage vraiment marqué d'un harem connu chez des particuliers. C'est quand même une chose réservée à la famille royale et à ce moment-là bien connue. Hein. Il y a des, un type, c'est un petit peu négligent ce que je dis. Hein. Un pharaon comme Ramsès II est quand même réputé pour ses très nombreuses femmes. Mais je suis très proche d'eux, alors je leur parle et je parle d'eux comme...
Quel est celui qui vous est le plus proche? Celui pour lequel vous avez une tendresse particulière, guillemets tendreux?
Alors, je réfléchis, j'ai énormément de tendresse pour les pharaons du Moyen-Empire, en particulier Sésostris III, qui est un des rares pharaons qui s'est fait représenter âgé.
Ah oui.
Et désabusé, amer... pas bien, soucieux, et je pense que c'est quand même un des rares qui est accepté finalement et de montrer les attaques de l'âge sur son visage et les soucis de sa tâche. Et je crois que c'est un personnage qu'il ne faut pas du tout négliger dans ce très joli comme ça éventail de pharaons. Alors il y en a qui sont très connus comme Akhenaton, Amenophis III auquel on a consacré une très belle exposition. C'est vrai qu'il y a eu un art extraordinaire pendant cette période, mais il y a des personnalités comme ça que l'on peut connaître un peu plus intimement comme Sésostris III qui sont vraiment des personnalités attachantes.
والمياه تندفع منه لذلك افتح فمي لاتكلم
Ô grand intendant, tu es Ré, le maître du ciel. Tu es la crue qui inonde, tu es le Nil qui fait verdir les prés. Prends garde de l'approche de l'autre vie. Ne triche pas car tu es l'équilibre. Ton cœur est le poids de la balance. Tu as été nommé pour écouter les plaintes. Tu as été désigné pour servir de guide aux pauvres. Sois comme la satiété qui arrose et fait cesser la faim. Sois comme l'homme qui étanche la soif.
Il a un rôle majeur dans la mentalité égyptienne et dans l'imaginaire égyptien. Il apparaît régulièrement lors de fêtes populaires. Il y a plusieurs façons de pratiquer la religion, évidemment, il y a encore de nos jours plusieurs façons d'être observant ou pratiquant. Et évidemment, dans l'Égypte ancienne, il y avait également plusieurs façons d'avoir sa propre piété. Mais le pharaon jouait un rôle charnière dans cette foi et dans cette piété. Et il fallait que régulièrement, il apparaisse au peuple et qu'il fasse sentir au peuple qu'il était là, prêt à intervenir auprès des dieux et à entendre les suppliques du peuple qui avait des litiges avec leurs voisins, des problèmes d'enfants, des problèmes de succession dans la famille. Enfin, tout cela pouvait être déposé comme requête auprès du pharaon qui, à ce moment-là, intervenait auprès des dieux. Alors évidemment, pharaon ne pouvait pas tout faire, il ne pouvait pas gérer le pays et être dans tous les temples d'un pays qui s'étendait sur plus de 1000 kilomètres en même temps. Et donc, il déléguait un clergé fort important qui était là pour pallier toutes ces difficultés quotidiennes du peuple égyptien et faire fonctionner les rituels dans les temples.
N'oublie pas une chose. Il y a 2000 ans aussi, j'étais prêtre à Thèbes. J'étais souvent prêtre en Égypte. Un jour, nous avons vu arriver un jeune homme de 20 ans qui nous a dit qu'il était grec, qu'il voulait être initié au temple grec, au temple égyptien. Il s'est assis, on s'est méfié, le collège des prêtres égyptiens, on s'est méfié. Un grec, c'est un peu menteur, un peu filou, on n'avait pas confiance à cet homme. On lui a dit non, tu ne peux pas rentrer dans le temple et on ne peut pas t'initier. Cet homme est resté 20 ans assis à la porte de Thèbes. Cet homme mendiait pour pouvoir survivre, pour manger, pour vivre. Et tous les jours, il nous disait, par pitié, laissez-moi rentrer dans le temple, initiez-moi. Au bout de 20 ans, on a pris pitié de lui, on l'a introduit. On l'a commencé à l'enseigner à travers les fresques intérieures, des pylônes et des façades, à lui enseigner le véritable savoir égyptien. Mais on a eu peur, on a dit, on ne va pas jusqu'au Naos. On ne va pas lui apprendre le mystère des mystères. Il en a eu raison de se méfier, car dès qu'il a eu un peu de savoir, cet homme est parti en Grèce et a monté son école, c'était Pythagore. Et la science contemporaine, dont la bombe atomique est issue, vient des révélations de Pythagore, de la bêtise que nous avons faite d'initier ce grec il y a 2000 ans.
Alors le sigle B1. C'est le papyrus Bernin 3023.
Ça veut dire un paysan. Pou, c'est un paysan. En seret, amat. Amat, seret, amat, c'est-à-dire le chancel, c'est ce qu'on appelle Wadinatroun maintenant. C'est une dépression qui se trouve, elle est marquée, tenez sur la carte, là, Wadinatroun. Ce qui veut dire le well du sel en arabe. C'est une zone où il y a du sel partout. Le natron, c'est une sorte de sel avec lequel on faisait momies. Qui habitait donc un paysan du Wadi Natroun, Iset Oun Emetef. Il y avait une femme, Meret Ren-S, dont le nom était Meret, la bien-aimée, s'appelait,
original. Vous épatez tout le monde avec ça, non?
Pourquoi?
Hein?
Non, non, parce qu'on vient de le faire. Hein. Mais, non, parce qu'il ne faut pas croire que c'est si facile que ça. Quand on est devant un monument, oui, un truc. On lit facilement les premières lignes parce que c'est des formules toutes faites. Ouais. Et puis quand on arrive à la partie intéressante, en général, ça devient plus trapu parce qu'il y a le vocabulaire qu'on ne connaît pas. Où il y a le...
Mais les gens autour, ils restent bouche ouverte quand vous commencez à déchiffrer, non?
Non, en France, les gens, c'est pas de rien. Ce qui m'a plus frappé, c'est en Égypte, moi, au musée du Caire, oui. On traduisait sur une tombe. Alors, les jeunes Égyptiens des écoles, là, ils n'en revenaient pas parce qu'il n'y en a aucun qui. C'est très rare, hein, les Égyptiens qui lisent les hiéroglyphes. Hein. Donc, voir un étranger qui venait sur leur territoire pour lire l'écriture sacrée de leurs ancêtres, ça les surprenait. Mais ça, c'est un texte facile. Hein.
Pourquoi vous êtes venu, vous, faire comme ça, apprendre les hiéroglyphes?
C'est un vieux rêve. Depuis, je suis un ancien marin. Enfin, j'étais allé sur la Jeanne d'Arc, débassée en Égypte, j'ai visité le musée du Caire, j'ai vu le coup de foudre en voyant les pyramides et le musée du Caire. Alors, j'ai longtemps travaillé tout seul, comme ça, pour m'amuser. Aussi bien civilisation, puis j'avais juré que le jour où j'aurais du temps, j'apprendrais ça à fond, et puis ça a correspondu avec ma disponibilité en étant à la retraite, donc je me suis inscrit à Kéops.
Et vous trouvez ce dont vous avez rêvé là?
Ah oui, parce qu'à partir des hiéroglyphes, ça ouvre sur toute la civilisation, la religion, l'histoire, l'organisation, la sémantique, ça ouvre des tas de choses.
Et ça continue à vous faire rêver?
Ah oui, plutôt, oui. Non seulement rêver, mais ça donne du travail, en plus. On travaille plusieurs heures par jour.
Ça vous rend heureux, tout ce travail, toute cette étude-là?
Ah oui.
Oui, ça vous donne beaucoup de bonheur?
Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Mais puis alors, surtout que quand on va en Égypte, après...
Vous êtes allé?
Ah ben, j'essaie d'y aller tous les ans. Hein. Je vais pas tous les ans. Là, je vais y retourner dans 3 semaines.
Est-ce que ce que vous voyez de l'Égypte maintenant ressemble toujours à ce que vous en avez vu en arrivant sur votre comme marin?
Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, c'est l'ambiance générale est la même, mais la différence, c'est que maintenant, quand je vais voir quelque chose de précis. Quoi. On va faire un voyage spécifique à Louxor pour aller voir les inscriptions de la reine Hatshepsout à Deir el-Bahri, dans les différentes tombes, etc. On va dans un but extrêmement précis. Quoi. On a un thème, par exemple, un voyage sur un thème. Je me rappelle d'une année, on avait un thème très intéressant, c'était Ramsès II qui avait chargé son fils, en fait son fils s'appelle Ramoï VII, qui était le premier archéologue dans l'histoire de l'humanité, qui était chargé de faire l'inventaire de tous les temples et les œuvres d'art en Égypte. Et alors il y a un certain Penpato qui était son missi dominici, et qui, chaque fois qu'il faisait l'inventaire, laissait une trace. D'ailleurs, dans les temples ou dans les tombes, on trouvait la trace. On cherchait la trace de M. Penpato est passé là. Et il a vu qu'il y avait tant de choses en temple, etc. Il y avait l'inventaire de tous les temples du temps de Ramsès II. Oui, c'est un thème amusant, un fil directeur.
Et quel effet ça fait d'être tout entier tourné vers le passé, comme ça?
Je vous dis, le passé et le présent, ça se ressemble.
Ah mais bon, même en France, elle a un ou deux CD qui sont magnifiques.
Et vous auriez eu 5 noms de baptême?
Ah non, ça c'est réservé au pharaon, il aurait fallu que j'accède aux plus hautes fonctions de l'État, après tout, pourquoi pas, mais enfin, là, je ne sais pas si mon ambition irait jusque-là. Les 5 noms de baptême faisaient partie du protocole du pharaon. Mais les autres, ils avaient, disons, si j'étais resté quelqu'un de ma catégorie sociale, j'aurais été moi-même, Guillemette Andreu, fille de Monsieur Machin et de Madame Machin. C'est-à-dire mon père et ma mère. C'était comme ça qu'on nommait et qu'on baptisait les gens sur leurs documents.
Et l'amour des fleurs et des jardins, vous l'auriez partagé avec les Égyptiens?
Oh, oui, comme aujourd'hui, pourquoi pas. En plus, ça sent bon, il y a des nénuphars, il y a des lotus, tout ça est extrêmement... Puis ça pousse bien, je veux dire, tout pousse en Égypte. À partir du moment où il y a de l'eau, dans le désert ça ne pousse pas, mais sur les bords du Nil, c'est absolument miraculeux hein, d'avoir... Ça pousse tout le temps, toute l'année, puisqu'il fait chaud et qu'il y a de l'eau. Donc au mois de janvier, vous avez des fleurs que nous, on a du mal à avoir au mois de mai, si vous voulez.
Puis vous auriez eu un miroir, un grand démêloir en os.
Oui, oui, j'aurais eu tout mon petit arsenal de maquillage et mes produits de beauté dans un petit coffre que j'aurais rangé sous ma chaise ou
un
à côté de mon lit.
Avec des perles cylindriques.
Voilà, tout cela fait partie... des biens nécessaires à la beauté des dames. J'aurais eu un joli bandeau pour ceindre ma tête, décoré de perles ou décoré de rosaces. Enfin, tout ça fait rêver. Hein. Quand même, les bijoux égyptiens, c'est pas mal.
L'escarabée
hein.
En chaton.
Oui, l'escarabée en chaton, oui, exactement. L'escarabée, des petites perles. Et les femmes étaient, enfin les femmes et les hommes d'ailleurs, et les enfants étaient toujours parés de bijoux. C'est-à-dire que même quand on n'a pas les moyens d'avoir de l'or ou de l'améthyste, on a du cuir ou on a des bijoux en corde, enfin des choses très simples, mais en tout cas... Il n'y a pas de représentation, de même dans les champs, on voit les femmes qui ont des petits bracelets en cuir, par exemple.
Mais vous auriez eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants.
Ah bah oui, ça sûrement plus que maintenant, oui.
C'est Jack, oui.
C'est Jack,
oui.
Je crois.
C'est Jack.
Le nom. Oui.
C'est Pat.
Voilà. Ah oui.
Merci, madame.
C'est Jack,
voilà,
c'est quoi?
Voilà, je cherchais c'est Chat, je voyais. Non, c'est Pat.
Non, c'est qui?
Le nom, c'est le nom des provinces égyptiennes. Ah, oui. C'est Pat. Alors, vous voyez, il y a des signes que quelquefois, on a beau bien les connaître, de temps en temps, on cale sur un signe. Alors, si on n'a pas le catalogue sous la main, il faut essayer de faire travailler sa mémoire.
Vous préparez la suite du texte, là?
Oui, c'est la suite du texte, oui. Vous voyez, ligne par ligne.
Et comment vous êtes arrivé là? Vous avez fait le même chemin
Absolument, oui, un chemin parallèle. Ça fait
vous
7
êtes
ans.
Marin aussi?
Ah non, pas du tout. Je suis ingénieur.
Oui.
Je suis ingénieur, un pur scientifique. Et pour ma retraite, j'ai trouvé que ça serait très bien. Alors j'ai commencé la première année d'activité, la dernière activité plutôt, pour vérifier que ce n'était pas un fantasme. Parce que vous savez, il faut se méfier des rêves. Hein. Mmh. Non, ça m'a plu.
Pourquoi il faut se méfier des rêves?
Ben, il faut vérifier que quand on veut qu'ils durent, il faut quand même les mettre en contact avec la réalité. Alors, quelquefois, ils en meurent, quelquefois, ils survivent.
Bon, là, vos rêves, ils ont résisté.
Mais il faut arriver à se promener longtemps.
Oui, très longtemps.
Hein?
Et seul.
Oui. Les gens vont rentrer un par un?
Ah, je sais pas, moi. Je ne connais pas. Et ça, c'est des peintures où ça dépique des intérieurs, des mosquées ou des places fermées, ou qui m'a beaucoup impressionnée dans ma vie, dans mon enfance. Alors, je ne les fais pas comme des mosquées. Peut-être comme des mosquées, mais peut-être dans des endroits fermés, des arcades qu'il y a en Égypte. Vous allez les voir dans les diapos. Et ici, on le voit par ici, par les trous qu'il y a.
Est-ce qu'il y a des rappels entre les diapos et...
Non.
Non, il n'y a pas de...
Non, je n'ai pas fait ça parce que je voulais montrer dans les diapositives une autre place du Caire.
D'accord.
Que ici, pour que ça montre plus, ça devient une autre dimension sur la dimension que nous avons ajoutée. Alors, ça devient une dimension réaliste, les diapos. Mmh. L'Égypte consommateur, l'Égypte de quotidienne et des choses comme ça qu'on ne les voit pas tous les jours en Europe.
Ça, c'est l'espace intérieur de l'Égypte.
Oui. Ou c'est mon espace oui, de mémoire d'Égypte.
La mémoire d'Égypte...
Ça, il faut être mis ça, ici. Ça vient là. On a une continuité dans les rapports des choses. Comme ça, la lumière tombe dessus. La lumière n'est pas mise encore.
Oui.
Ils n'ont pas terminé ça. Alors, vous savez, vous avez là une continuation de la situation ici. Alors, on vient là, dans une autre ouverture, où il y a un petit village que j'ai bricolé, avec des dessins, des momies, des poissons, des êtres humains, tout ça, qui ici, les bandeaux, les panneaux. On devait avoir le l'eau, mais à la place de l'eau, on a le rappel de l'eau qui est le sable. Il y en a certains que je considère comme ils sont des icônes. Et ça, c'est un petit village égyptien avec des écritures égyptiennes, des jeux égyptiens d'Égypte et tout des choses pareilles.
Ça, c'est votre mémoire à vous particulière.
Oui. Mais ça dépend comment vous regardez l'Égypte, hein, parce que vous pouvez vous en trouver si vous le savez.
Voilà. Est-ce que moi, je peux me fabriquer ma mémoire d'Égypte à partir de ce labyrinthe?
C'est possible.
Oui.
C'est possible. Ouais. On ne l'a pas fait encore. Ça, c'est considéré comme la rue qui t'amène à la vie ou à la mort. C'est un peu comme la vieille Caire, le vieux Caire. Alors, on vient là. C'est la chambre de la réflexion qui se trouve dans le labyrinthe avec les voiles des yeux. On se prépare pour un genre de momification. Alors, vous pouvez regarder. Vous pouvez rentrer aussi.
Je rentre, hein?
Il faut courber parce que c'est la même chose, le sentiment de courber devant les choses comme dans des anciennes égyptiennes ou dans les vieux maisons d'Égypte où les gens courbaient pour rentrer dans leur maison.
Pour rentrer dans les pyramides aussi, on se courbe comme ça. Hein?
Attention à votre tête, hein? Derrière. Hein?
Soigner en Égypte ancienne.
Oh ben on allait voir le magicien, le sorcier du coin, qui avait tout un arsenal de formules magiques, qui vous mettait des petits, qui vous écrivait des petites formules sur des bandelettes, qui roulait et qui vous mettait autour du cou. Et bien sûr, par magie, le contenu de ces formules allait vous guérir. C'est ce qu'on espérait. Sinon, alors il y a tout un arsenal aussi de potions magiques épouvantables à base d'excréments d'âne, de sel, de toutes sortes de poudres épouvantables. Et ils avaient des connaissances de l'anatomie relativement poussées. On voit qu'ils avaient des maladies d'ailleurs bien répertoriées. Ils avaient tous la bilharziose. Ils avaient des problèmes de rhumatologie terribles, qui étaient sans doute dus d'ailleurs à des problèmes de travail. En fait, c'était des gens qui portaient énormément pendant toute leur vie professionnelle, enfin dans toute leur vie active, et donc ils mouraient avec des scolioses et des malformations osseuses terribles. Mais on soignait, on mourait très jeune. Hein, l'espérance de vie ne dépassait pas 40 ans. Hein. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que
les femmes se mariaient à 12 ans, voilà, hein, vous dites. Ouais.
Et là, il faut bien se rendre compte que ça n'est pas monstrueux. C'est-à-dire qu'il faut tout faire plus tôt. Donc effectivement, on se marie beaucoup plus jeune. Et on a 4 enfants à 20 ans, c'est banal.
Voilà, ça c'est l'homme, l'homme des escaliers. Ça c'est la chaise renversée qui est les réflexions qui viennent de la position de l'être humain, qui viennent du ciel. Mais vous voyez, il y a une confusion entre le haut et le bas. Bas. Parce que c'est la même chose. Alors on le voit là, alors tout devient.
D'accord. Bas. On voit la chaise se refléter dans le miroir. Voilà, le monde est
alors,
de nouveau.
Au moment où on le regarde, l'envers qui est la chaise devient droite.
Et d'où vient cette confusion du haut et du bas?
C'est la réflexion de la vie.
Ben non.
Les énergies
quand
qui viennent d'en haut, on interprète les choses quand ils viennent sur nous.
Et quand elles viennent d'en bas? Il n'y a pas de force tellurique, il n'y a pas de force
du
bas.
Peut-être, je ne sais pas, non. Mais il y a des choses qui viennent de haut. Alors c'était nécessaire de mettre les choses de haut parce qu'on a mis toutes les choses de bas.
Mais
parce que c'est la miroir, l'image du miroir, qui est importante dans le labyrinthe. Le miroir des choses, l'aspect métaphysique des choses, mais on l'a fait de manière très simple.
Mais là, on peut pas passer de l'autre côté du miroir.
Vous pouvez.
On peut passer de l'autre côté du miroir. Oui.
Mais attention, ne vous cognez pas.
Non.
Devant le miroir, je me connaissais plus. Ailleurs, celui-là. Tout le visage, tout le voyage de mon âge sont tracés sur mon front. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'éternité? C'est quoi? Verlaine, pardonnez-moi. La vie simple et tranquille.
Alors c'est quoi l'éternité?
L'éternité, c'est plein de choses. On peut pas. Parce que le problème maintenant,
elle est retrouvée.
Vous utilisez un petit mot facile à dire, mais si on voulait expliquer, peut-être on reste plein d'années pour on peut retrouver une petite solution. Enfin, on ne retrouve jamais. C'est ça le problème.
Elle est retrouvée. Quoi, l'éternité?
Ah oui, par exemple, c'est la mer, dans le soleil, c'est plein de choses. C'est l'éternité. Je ne sais pas, par exemple, chez vous, c'est quoi l'éternité?
L'éternité, c'est néant.
Eh bien, dis donc.
Non, pas chez vous?
Non, je ne crois pas.
Non?
Non, non. C'est un problème de question. On ne peut pas dire pourquoi néant.
Eh bien, chez moi, c'est la vallée noire, quoi. C'est la vallée toute noire.
On piquait les soleils.
truc amusant, c'est que s'il y a des parties qui paraissent assez primitives comme raisonnement, on s'aperçoit qu'il y a des concepts égyptiens anciens dans la religion égyptienne qui sont très proches de la science moderne. Et une fois, j'étais en train de me casser la tête sur un texte qu'il y a dans En Ongle sur la notion du néant. Pour eux, le néant existe. Le néant, c'est du néant que. Le néant, c'est une potentialité d'existence, avec des éléments contradictoires qui, le jour où ils se rencontrent, permettent de faire sortir du noun, sortir la vie. Et il y a une potentialité dans ce qu'on appelle le néant. Le néant n'existe pas, et de cette potentialité sort l'existence. Et c'est extraordinaire de penser qu'il y a. Il y a maintenant plus de 4000 ans, cette idée existait déjà. Alors évidemment, il y a beaucoup de folklore, beaucoup de superstitions, beaucoup de ils étaient très croyants à magie, mais aujourd'hui aussi, du reste. Mais au point de vue scientifique, c'est étonnant, parce que dans les notions de la religion égyptienne, on trouve beaucoup de thèmes sur la physique moderne qui sont très proches de la physique.
Alors effectivement, le mélange, la religion et la médecine, c'est pareil. Il y a un texte médical qui dit en substance, si tu veux chasser le démon qui est dans le ventre d'un homme, tu lui administres du bicarbonate de soude. Alors ça n'est pas du bicarbonate de soude, mais il y a une recette qui est donnée, qui est un mélange de sel, d'herbes et de produits divers, qui conduit à fabriquer du bicarbonate de soude. Les traités médicaux sont rédigés au langage près exactement comme un traité médical moderne. C'est-à-dire un paragraphe commence en disant, si, chez ton malade, tu observes ceci, ceci et ceci. Description des symptômes. Ensuite, le diagnostic. Il y a trois cas de figure. Ça guérit tout seul, tu ne fais rien. Il est foutu, il n'y a rien à faire. Troisième cas de figure, il y a un traitement appliqué et ensuite, suis le traitement. Les juristes médicaux, ils sont rédigés. T'sais. C'est presque... Alors effectivement, pour le langage...
Le problème, c'est qu'à ça, il y a beaucoup de magie.
Alors, mais non, les maladies viennent des démons, les maladies viennent pas en ignorant les microbes, en ignorant le fonctionnement. Mais, alors évidemment, les formules de médicaments sont un peu curieuses.
قل الحق افعل الحق لأنه عظيم لأنه هو الباقي وسوف ينالك الثواب ويتبعك خلال عمرك المليء.
Il devait aussi leur apparaître dans une sorte d'éternelle jeunesse.
Oui, cela fait partie des devoirs rituels et organiques du rôle du pharaon, d'être un homme éternellement jeune. Alors évidemment, on n'a pas encore trouvé le secret de la jeunesse, mais Pharaon se prêtait régulièrement, et en tout cas au bout de 30 ans de règne, à un rituel qui s'appelle le rituel de la fête cède, qui est un exercice sportif et religieux au cours duquel il devait faire de la course à pied, du tir à l'arc, escorté évidemment par sa cour et par un clergé important, et montrer qu'il avait, grâce à l'accomplissement de ses rites, reconquis vigueur et jeunesse, et qu'il était toujours aussi apte ou de nouveau apte à exercer ses pleins pouvoirs. Au bout de 30 ans, évidemment, peu de pharaons ont atteint une durée de règne aussi longue, mais lorsque ça leur arrivait, comme ce fut le cas de Pépi II ou de Ramsès II ou d'Amenophis III, eh bien, ces pharaons, à ce moment-là, pouvaient refaire ce rituel tous les 3 ans.
Est-ce que la culture égyptienne est une culture quand même très, très tournée vers la mort, si on en croit les rites des funérailles, si on en croit le culte des morts?
Alors, ce qu'on peut dire sur la culture des Égyptiens et la façon dont ils appréhendaient la mort dans leur quotidien est évidemment totalement dépendant de ce que nous connaissons de la culture des Égyptiens. Il est évident que nous n'avons accès à la culture égyptienne et à la civilisation pharaonique que par les sources qui nous sont encore disponibles et qui sont à 99% des sources funéraires. Donc il ne faut pas non plus se voiler l'idée que, parce que nous avons, c'est comme si vous ne connaissiez notre société qu'à travers les cimetières du Père-Lachaise. Il est évident que ça serait comme, ou de Picpus, ça serait quand même extrêmement réducteur de nos soucis quotidiens et de ce qui hante nos pensées. Cela dit, c'est un peu aussi, c'est pas tout à fait juste ce que je dis, dans la mesure où les Égyptiens avaient à cœur de se faire enterrer avec un mobilier et un matériel qui ne nous intéresse plus lors de nos enterrements, mais qui les intéressait au plus haut point, puisqu'ils considéraient que dans l'au-delà, ils allaient se faire enterrer avec tout ce dont ils auraient besoin pour survivre et avoir une vie heureuse dans l'au-delà. Donc, grâce à ce mobilier et à ce matériel, nous connaissons à peu près la vie quotidienne des Égyptiens.
C'est étrange, chambre mortuaire, quand même, quand on descend dans par exemple, Khéops.
Oui.
Non, on a cette...
Ah, moi, je trouve ça très impressionnant.
Il faut pas être claustrophobe, on a ce sentiment de, je sais pas, des tas de choses qui vous pèsent, et sur l'âme et sur la tête, non?
Ah oui, non, mais ça, je trouve que la pyramide royale, c'est une construction très impressionnante, qui peut tout à fait faire peur. Moi, je connais des gens qui refusent d'y entrer. Hein. C'est vrai que c'est labyrinthique, il faut se pencher, on n'y tient pas debout, on est très mal. Hein. C'est un endroit extrêmement accommodant et en même temps qui tient encore 5000 ans après. C'est ça qui est extraordinaire. Quoi. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette masse de pierres qui était là pour enterrer un homme. Dont on a à peine l'image, puisque Khéops est quand même un pharaon qui est très, très peu et très mal représenté dans la statuaire, et en même temps, il arrive encore à nous faire peur.
À qui parler aujourd'hui? Les frères sont méchants, et les amis d'aujourd'hui n'aiment plus. À qui parler aujourd'hui? Les cœurs sont cupides, et chacun emporte le bien de son prochain. À qui parler aujourd'hui? On se satisfaisait du mal, le bien est jeté à terre partout. À qui parler aujourd'hui? Le criminel est celui qu'on aime. À qui parler aujourd'hui? Il n'y a plus de juste, le pays est abandonné aux méchants. À qui parler aujourd'hui? Je suis chargé de misère, sans amis. Aujourd'hui, la mort se présente à moi comme la guérison pour le malade, comme une sortie après l'accident.
C'est joli le passage que vous citez sur le dialogue du désespéré avec son âme. C'est assez joli, non?
C'est un très joli texte, parce que c'est pas un texte qu'on attend des Égyptiens, en fait. Il y a une image comme ça, extrêmement carré comme ça, hiératique de l'Égypte ancienne, et là on a tout d'un coup en face de soi un texte relativement pessimiste, sceptique, d'un homme qui se pose des questions et qui entame le dialogue avec son âme et qui lui dit à quoi ça rime tout ça, parce qu'après tout personne n'est jamais revenu de là où il est parti. Et ça c'est vrai, c'est toujours la question qu'on se pose, c'est en fait... C'est ça qui est d'ailleurs aussi assez troublant. On n'a pas tout, on ne connaît pas tout l'imaginaire et de la pensée égyptienne, puisque en fait, ce que l'on a de l'Égypte ancienne, c'est un peu le journal officiel et les choses les plus idéologiquement sûres, si vous voulez. Maintenant qu'il y ait eu certains esprits des périodes de doute, cela ne, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ne fait guère de doute, puisqu'on a un texte comme celui-ci.
Mais les sagesses, par exemple, ce texte intitulé Les sagesses, c'est une sorte de proverbe, de maxime, de philosophie quotidienne, parce qu'il y a un architecte.
Il y a beaucoup d'auteurs de sagesse dès l'Ancien Empire, c'est-à-dire dès le troisième millénaire, dès le début du troisième millénaire. La morale égyptienne se transmet par l'intermédiaire de textes sapientiaux, qui doivent de génération en génération transmettre la bonne conduite, la bonne parole, l'obéissance, le respect des anciens et surtout le respect de l'ordre régnant. Et c'est vrai que les Égyptiens ont été très peu révolutionnaires. Il y a très peu d'esprit subversif dans l'Égypte ancienne. Chose assez frappante quand même, ces trois millénaires relativement stables.
Alors, en ce qui concerne le conte du paysan, aucun des manuscrits ne contient le conte dans son entier. Certains sont amputés de la fin, d'autres du début, etc. Mais au début du texte, nous prendrons
vous
donc
aussi les écrire.
Manuscrire comme version de référence.
Ah oui, mais alors ça, c'est un problème de dessin. J'ai jamais très bien dessiné, mais on peut y arriver. Mm-hmm. Mais ça va pas.
C'est très pratique pour les petits enfants.
Alors, si vous voulez, si j'étais quand même très content, parce que j'ai toujours eu dans toute ma scolarité des notes abominables en dessin, ça a été un véritable cauchemar. Et alors finalement, avec les hiéroglyphes, quand on s'applique, comme ce sont des dessins quand même géométriques assez simples, on arrive même à faire quelque chose. Alors vous savez, c'est comme toutes les écritures, ça dépend de la vitesse à laquelle...
On va soumettre à l'épreuve de vérité. On va voir si vous arrivez à... à lire ce qu'il a écrit. Voyons, allez. Voilà l'épreuve de vérité.
J'ai quand même commencé en début de phrase. Je t'ai pas fait la vacherie de commencer au milieu.
You sheret rechou. Sheret, c'est quoi?
Guéret. C'est les deux signes sont voisins.
Ah oui, certes. Rechou, je sais. Ses pattes. Je connais ce...
Deb.
Je connais...
Le maître.
Le maître de ce gnome. Enfin, de cette région. Certes, je connais le maître de cette région.
Certes, je connais le maître de cette région. حينما يلف في كفنه ويوضع في التراب فلا يمحى اسمه من الأرض بل يذكر لأنه أقام العدل.
Il y avait une tenue de fête particulière. Je parlais beaucoup du vêtement, de manière de se parer.
Non, pas connu, hein, cela ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais il n'y avait pas tenue fête, il y avait une tenue de prêtre connue, mais pour les fêtes privées, les festins, les banquets, il y avait la nécessité d'être propre, d'être paré de bijoux, d'être très maquillé.
Ta perruque.
Perruque, oui. Ça c'est très extraordinaire parce que c'est quand même un pays où il fait très chaud. Et l'idée de porter une perruque, moi, me paraît tout à fait terrible. Mais il n'empêche que le port de la perruque est très bien attesté.
Courte bouclée dégageant les oreilles,
voilà.
Dites-vous.
Oui, exactement, pour les hommes, oui.
Et pour certaines femmes aussi
les gens... femmes, oui, elles avaient des perruques courtes ou des perruques bouclées. Les deux étaient et longues. Les deux types de longueur étaient connus, mais... Et c'est vrai que moi je l'ai plaint parce qu'en plus souvent elle mettait un cône de graisse par-dessus cette perruque pour la tenir, la faire tenir. Là ça peut être vraiment très chaud et dégagé entre nous.
Les petits couloirs de la rue. Vous connaissez les arcs. Après, on vit ici sur la rue qui s'appelle la rue Nefertiti allumée. Et ça, c'est on regarde dans le miroir pour son moi.
C'est immense.
Alors, tu te retrouves ton moi comme ça.
Ah, je vais retrouver mon moi. Je mets la chouchia pour retrouver le moi. Et ça peut être un moi encombrant, hein?
Non. Et aussi, c'est un moi qui est vide aussi, des fois. Mais le moi peut être très encombrant, des fois. Alors ça, on vient sur la rue Nefertiti allumée.
Qu'est-ce que c'est, ça, Anna?
C'est un vendeur des cacahuètes, mais ils ne l'ont pas encore cherché, les cacahuètes. Je pense qu'on va les installer la dernière jour. Le vendeur de la rue, des cacahuètes. Et ça, c'est la grande voiture d'Égypte. c'est les chaises de café, les cafés, les choses pour boire de l'eau. Alors c'est la thème de la chaise qui développe dans l'affaire. Ça va avec le temps qui est arrêté. Et aussi le temps où on ne bat plus, on est assise là, attendre qu'est-ce que les choses vont arriver. Qu'est-ce que l'apporte le temps, la vie.
La rue.
La rue.
Est-ce qu'à la fin, ils devront vous dire s'ils ont trouvé le secret du labyrinthe?
Non.
Non.
C'est mieux qu'on ne parle pas des secrets.
Merci Miko, merci Miko, merci Miko, merci Miko, merci merci, merci Miko, merci Miko.
Pharaon ou Pharaon d'hier et d'aujourd'hui, avec les élèves du cours de hiéroglyphe Khéops, Monem Osem, Paco Rabanne, Guillemette Andreu, Anna Borigian, Ramzi Mustafa, Ahmed El Maghrabi. Groupe de réalisation, Didier Sudre, Jean-Pierre Pernel, Francesca Piolo, Isabelle Gendré. Nuit magnétique, bonsoir, à demain.
Merci beaucoup.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 octobre 1994.